Sénèque, lettre à Lucilius, lettre 118. Sénèque, lettre à Lucilius, lettre 118, des élections à Rome, du bien et de l'honnête. Tu réclames de moi des lettres plus fréquentes. Comptons ensemble. Tu ne seras pas au pair. Il était convenu que tu commencerais. Tu devais m'écrire et moi te répondre. Mais je ne serai pas exigeant. Je sais qu'on peut te faire crédit. Je te livrerai donc mes avances. Je ne ferai pas comme Cicéron, le plus fécond des beaux parleurs, qui engageait à Titus à lui écrire, à défaut même de tout sujet, ce qui lui viendrait à l'esprit. Les sujets ne me manqueront jamais, dussé-je omettre tous ces détails qui remplissent les lettres de Cicéron. Quel candidat Périclite, quelle autre lutte par auxiliaire ou de ses seules forces, qui pour le consulat se repose sur César, qui sur Pompée, qui sur son coffre-fort, quel âpre usurier sait que Cécilius, dont ses proches même ne peuvent tirer un écu à moins d'1% par mois. Parlons de nos misères plutôt que de celles d'autrui. Sondons notre cœur, voyons de combien de choses il se fait candidat, et refusons-lui notre voix. La vraie grandeur, ô Lucilius, la sécurité, l'indépendance, consiste à ne rien solliciter et à s'éloigner de tout commis sous préside de la fortune. N'est-il pas bien doux, dis-moi, quand les tribus sont convoquées, les candidats guindés au haut de leur tribune, que l'un promet telle somme, que l'autre en fait l'authentique dépôt, qu'un troisième accable de baisers la main de l'homme auquel, une fois nommé, il ne laissera pas toucher la sienne, que tous attendent dans l'anxiété la voix qui proclame les élus. N'est-il pas bien doux de rester à l'écart et de regarder ces marchés publics sans acheter ni vendre quoi que ce soit. Mais combien plus vive est la joie de celui qui voit d'un œil calme non plus l'étroite enceinte où se font des prêteurs et des consuls, mais ces comices universels où se postulent soit des honneurs annuels, soit de perpétuels pouvoirs, soit des guerres heureuses et des triomphes, soit encore des richesses, des mariages, une postérité, la santé pour soi et les siens. Quelle est grande l'âme qui seule ne fait nulle demande, ne courtise personne, et qui dit « Je n'ai pas affaire à toi, ô fortune, je ne me mets pas à ta merci. Je sais que tes exclusions sont pour les Catons, tes choix pour les Vatinius, je ne te prie de rien. » Voilà détrôner l'aveugle déesse. Je puis bien correspondre ainsi avec toi et exploiter une matière toujours neuve quand de toutes parts nous voyons s'agiter ces milliers d'ambitieux qui, pour emporter quelques désastreux avantages, courent à travers tant de maux à un nouveau mal, convoitent ce qu'ils vont fuir tout à l'heure ou du moins dédaigner. Car quel homme eut jamais assez d'un succès dont le désir même lui avait semblé téméraire? Non que la prospérité soit, autant qu'on se le figure, avide de jouissance. C'est qu'elle en est pauvre. Aussi n'en rassasie-t-elle personne. Tu crois tel homme fort élevé parce que tu rampes loin de lui. Mais ce point où il est parvenu est, ce lui semble, bien bas. Ou je me trompe, ou il cherche à monter encore. Et ce que tu prends pour le plus haut terme n'est à ses yeux qu'un échelon. Tous se perdent par l'ignorance du vrai. Ils s'imaginent voler au bonheur, déçus qu'ils sont par de vains bruits. Puis, des mots réels, où le déchet ou le néant de leurs espérances ressortent pour eux d'une possession hérissée d'épines. Presque toujours, le lointain nous abuse et nous admirons. Grandeur est pour le vulgaire synonyme de bonheur. Pour ne point donner dans la même méprise, recherchons quel est le vrai bien. On l'a compris diversement. Les uns l'ont défini ou décrit d'une manière, les autres d'une autre. Quelques-uns disent « le bien, c'est ce qui invite l'esprit et l'appelle à soi ». D'autres, aussitôt, de répondre « comment ?» même s'il invite l'homme à sa perte. Tu sais, il y a bien des mots qui séduisent. Le vrai et le vraisemblable diffèrent entre eux. Ainsi, le bien se joint au vrai, car il n'est de bien que le vrai, mais ce qui invite, ce qui allèche, n'est que vraisemblable. Il dérobe, il sollicite, il entraîne. Voici une autre définition. Le bien est une chose qui excite l'appétit d'elle-même, ou le mouvement et la tendance de l'âme vers elle. À quoi on réplique également que ce mouvement de l'âme est excité par beaucoup de choses dont la poursuite perd le poursuivant. Une meilleure définition est celle-ci. Le bien est ce qui attire vers soi le mouvement de l'âme conformément à la nature. Celui-là seul est digne d'être recherché. Dès qu'il mérite nos recherches, il est honnête, chose à rechercher par excellence. Ceci m'avertit de t'expliquer en quoi diffèrent le bien et l'honnête. Ils ont quelque chose entre eux de mixte et d'indivisible, et il ne peut exister de bien qui ne renferme de l'honnête. Comme à son tour, l'honnête est toujours bien. En quoi donc diffèrent-ils ? L'honnête est le bien parfait, le complément de la vie heureuse, qui change en bien tout ce qu'il touche. Expliquons ma pensée. Il y a des choses qui ne sont ni bien ni mot, comme le métier des armes, les ambassades, les magistratures. Ces fonctions, honnêtement remplies, arrivent à être des biens, et de douteuses deviennent bonnes. Le bien a lieu par l'alliance de l'honnête. L'honnête est bien de sa nature. Le bien découle de l'honnête. L'honnête existe par lui-même. Ce qui est bien a pu être mal. Ce qui est honnête n'a pu être que bien. On a encore défini le bien, ce qui est conforme à la nature. Or, ici, prête-moi ton attention. Ce qui est bien est selon la nature. Il ne s'ensuit pas que tout ce qui est selon la nature soit bien. Beaucoup de choses conformes à cette nature sont de si mince importance que le nom du bien ne leur convient pas. Elles sont trop futiles, trop dignes de dédain. Or, jamais bien, même le moindre, n'est à dédaigner. N'est-il encore qu'en germe? Ce n'est pas un bien. Dès qu'il commence à être un bien, il n'est plus petit. À quoi le bien se reconnaît-il? S'il est par excellence selon la nature. Vous avouez, dira-t-on, que ce qui est bien est selon la nature. Voilà son caractère. Et vous avouez aussi qu'il est des choses conformes à la nature qui ne sont pas des biens. Comment donc, l'un est-il bien? Les autres ne l'étant pas. Comment prend-il un caractère différent, les autres ayant comme lui le privilège d'être conformes à la nature? Par sa grandeur même. Il n'est pas nouveau de voir certaines choses changer en s'accroissant. C'était un enfant, c'est maintenant un homme. Son caractère devient autre, car l'enfant n'avait pas de raison, l'homme est raisonnable. Il y a des choses qui, par l'accroissement, deviennent non seulement plus grandes, mais tout autres. On répond, ce qui grandit ne devient pas autre. qu'on remplisse de vin une bouteille ou un tonneau, il n'importe. Dans les deux vases, le vin conserve sa propriété vineuse. Une petite quantité de miel ou une grande ne diffère pas de saveur. Il n'y a point d'analogie dans les exemples qu'on me pose. Dans le vin et dans le miel, la qualité est et reste la même, quoique la quantité augmente. Certaines choses, en s'augmentant, ne perdent ni leur genre ni leur propriété. Certaines autres, après beaucoup d'accroissement, changent en dernier lieu de nature et subissent une condition d'existence nouvelle et autre que la première. Une seule pierre fait la voûte. C'est celle qui presse comme un coin les deux flancs inclinés, celle dont l'insertion les réunit. Pourquoi cette dernière addition produit-elle tant d'effets pour son peu de volume? Ce n'est pas qu'elle augmente, c'est qu'elle complète. Certaines choses ne font de progrès qu'en dépouillant leur première forme pour en recevoir une nouvelle. Que l'on recule longtemps par la pensée les bornes d'un objet et qu'on en suive l'extension jusqu'à la lassitude, il prend dès lors le nom d'infini. Il est bien autre qu'il n'était lorsqu'il paraissait grand mais fini. C'est ainsi que, si nous songeons à une chose difficile à diviser, la difficulté croissante nous amène enfin au non divisible. Ainsi encore, d'un corps lourd et qu'on meut avec peine, nous arrivons à l'immobile. De même, une chose d'abord conforme à la nature a pu, par un accroissement de grandeur, prendre une autre propriété et devenir un bien. Lettre 119. Qu'on est riche quand on commande à ses désirs. À chaque découverte que je fais, je n'attends pas que tu dises « partageons ». Je me le dis pour toi. Qu'ai-je donc trouvé? Tu veux l'apprendre? Ouvre ta bourse, c'est tout profit. Je t'apprendrai le secret de devenir riche en un instant, secret dont tu es si curieux et avec raison. Je te conduirai à la plus haute fortune par une voie expéditive. Il te faudra cependant un prêteur, car tout commerce nécessite des emprunts. Mais je ne veux pas que ce soit par entremetteur, ni que les courtiers aillent prônant ta signature. J'ai pour toi un créancier tout prêt, celui de Caton. Emprunte à toi-même. Quelque peu que ce mot soit, suffira, si ce qui manque, nous ne le demandons qu'à nous. En effet, cher Lucilius, nulle différence entre ne pas désirer et posséder. Dans les deux cas, le résultat est le même, des tourments de moins. Et je ne prétends pas que tu refuses rien à la nature. Elle est intraitable, on ne peut la vaincre. Elle exige son dû. Je dis seulement que tout ce qui va au-delà est purement volontaire, mais non point nécessité. Ai-je faim? Il faut manger. Que mon pain soit grossier ou de premier choix, cela ne fait rien à la nature. Elle veut, non que je délecte mon palais, mais que mon estomac soit rempli. Ai-je soif? Que mon eau soit puisée au lac voisin ou que je l'ai enfermée sous une voûte de neige dont elle emprunte la fraîcheur, qu'importe à la nature? Tout ce qu'elle me commande, c'est d'étancher ma soif. Sera-ce dans une coupe d'or ou de cristal, dans un vase murin ou de tibur ou dans le creux de ma main? Qu'importe encore? En toute chose, considère le but, et laisse là ce qui n'y mène point. Je suis sommé par la faim, saisissons le premier aliment venu. Elle-même assaisonnera tout ce qui sera tombé sous ma main. La faim n'est jamais dédaigneuse. Veux-tu donc savoir ce qui m'a plu si fort, ce qui me semble si bien dit? Le sage est le poursuivant le plus empressé des richesses naturelles. Viande creuse dont tu me gratifies, qu'est-ce que cela? J'avais déjà préparé mes coffres, déjà je m'inquiétais sur quelle mer j'irais trafiquer et risquer mes jours, quelle branche d'impôts j'exploiterais, quelles denrées j'emporterais. C'est une déception, cela. Me prêcher la pauvreté quand tu m'as promis des richesses. Ainsi, tu juges pauvre celui qui n'a faute de rien? Le mérite, dis-tu, en est à lui, à sa patience, non à sa situation. C'est donc que tu ne le crois pas riche, par la raison qu'il ne saurait cesser de l'être. Lequel vaut mieux, d'avoir beaucoup ou d'avoir assez? Qui a beaucoup désire davantage, preuve qu'il n'a point encore assez. Qui possède assez a obtenu ce que jamais riche n'a atteint, le terme du désir. Tu ne crois pas aux richesses du sage. Est-ce parce qu'elles ne te font proscrire personne? Parce qu'elles ne poussent point le fils à empoisonner son père et la femme son mari? Parce que dans la guerre elles sont à l'abri et dans la paix libres de soins? Parce qu'elles ne sont ni dangereuses à posséder, ni fatigantes à régir? A-t-il peu l'homme qui, pour tout bien, ne souffre ni du froid, ni de la faim, ni de la soif? Jupiter n'a pas plus. On n'a jamais peu dès qu'on a assez, jamais beaucoup dès qu'on n'est pas satisfait. Après Darius et les Indes vaincus, le Macédonien Alexandre est pauvre encore. Il cherche encore à conquérir. Il fouille des mers inconnues. Il lance les premières flottes qu'ait vues l'océan. Il a forcé, faut-il le dire, les barrières du monde. Ce qui suffit à la nature ne suffit pas à un mortel. Il s'en trouve un qui désire toujours après qu'il a tout, tant sont aveugles nos esprits. Tant l'homme, à mesure qu'il avance, oublie son point de départ. Celui-ci, maître tout à l'heure d'un coin de terre obscure et maître contesté, vient de toucher le bout du monde, et, n'ayant plus qu'à revenir par ce globe qu'il a tout conquis, il est triste. Jamais l'or ne fait riche. Au contraire, il irrite davantage la soif de l'or. En veux-tu savoir la cause? C'est que plus on a, plus il devient aisé d'avoir encore. Au surplus, fais venir ici qui tu voudras de ceux dont on accole les noms au Gratius et au Licinius. Qu'il apporte ses registres, qu'il suppute à la fois tout ce qu'il a et tout ce qu'il espère. À mon sens, il est pauvre. Au tien même, il peut l'être un jour. Mais l'homme qui s'accommode aux exigences de la seule nature, loin qu'il ressente la pauvreté, ne la craint même pas. Vois pourtant comme il est difficile de se réduire au pied de la nature. Celui-même que nous appelons l'homme de la nature et que tu nommes pauvre, celui-là aussi a du superflu. Mais l'opulence éblouit le peuple et attire vers elle tous les yeux, quand de grosses sommes sortent d'une maison, qu'on y voit jusqu'au plafond même couvert de dorures, quand une troupe d'esclaves choisis s'y fait remarquer par sa bonne mine ou par sa riche tenue. Félicité de parade que tout cela! Celle de l'homme que nous avons soustrait aux influences du peuple comme de la fortune est tout intérieure. Quant à ceux chez qui le nom d'opulence est mensongèrement usurpé par de laborieux besoins, ils ont des richesses comme on dit que nous avons la fièvre, quand c'est elle qui nous a. Par contre, si nous disons la fièvre le tient, de même il faut dire les richesses le possèdent. Voici donc le conseil que j'ai le plus à cœur de te donner et qu'on ne donne jamais assez. Règle toutes choses suivant les désirs naturels qu'on peut contenter ou sans qu'il en coûte ou à peu de frais. Seulement, n'allie point le vice avec le désir. Tu t'inquiètes sur quelle table, dans quelle argenterie paraîtront tes mets, si les esclaves servants sont bien appariés, ont la peau bien lisse. Les mets tout seuls, voilà ce que veut la nature. Vas-tu, quand par la soif tu te sens dévoré, chercher un vase d'or pour te désaltérer? Et rien ne te plaît-il lorsque la faim te presse, hors le pan, le turbo? La faim n'a point ses exigences. Il lui suffit qu'on la fasse cesser. Elle ne soucie guère avec quoi. Le reste est l'œuvre pénible d'une déplorable sensualité qui s'ingénie pour que la faim dure après qu'elle s'est rassasiée, pour que l'estomac soit non pas rempli, mais comblé, pour que la soif, éteinte aux premières rasades, se renouvelle encore. Horace a donc bien raison de dire que la soif ne s'inquiète point dans quelle coupe ou avec quelle grâce son eau lui est servie. Si tu crois que la chevelure plus ou moins belle de l'échanson ou le transparent du vase soit chose essentielle, tu n'as pas soif. La nature, en tout si bienveillante, nous a fait l'importante grâce d'ôter au besoin le dégoût. C'est au superflu que va bien l'esprit d'exclusion. Ceci n'est guère de mise, cela est peu vanté, voici qui choque mes yeux. Le Créateur de ce monde, en traçant à l'homme ses conditions d'existence, a voulu le conserver, non l'efféminer. Tout dans ce but est à sa portée, sous sa main. L'attirail de la délicatesse ne s'obtient qu'à grand-peine et à force d'art. Jouissons donc de ce bienfait de la nature. Comptons-le pour un des plus grands, et songeons qu'elle n'a sous aucun rapport mieux mérité de nous qu'en nous portant à satisfaire sans tant de répugnance les appétits qui naissent de la nécessité. Lettre 120. Comment nous est venue la notion du bon et de l'honnête? L'homme est rarement semblable à lui-même. Ta lettre, qui touche en courant nombre de questions subtiles, s'arrête enfin sur celle-ci dont elle demande la solution. Comment nous est venue la notion du bien et de l'honnête? Pour les autres écoles, ces deux choses sont diverses et distinctes. Chez nous, elles font partie du même tout. Je m'explique. Le bon, selon quelques-uns, c'est l'utile. Et il nomme ainsi la richesse, un cheval, du vin, une chaussure, tant ils la font descendre bas. L'honnête pour eux, c'est ce qui répond à la loi du devoir et de la vertu, comme des soins pieux donnés à la vieillesse d'un père, des secours à la pauvreté d'un ami, un vaillant coup de main, un avis dicté par la prudence et la modération. Nous aussi, nous divisons les attributs. Mais le sujet est un. Rien n'est bon que l'honnête, et l'honnête, par son essence même, est bon. Je crois superflu d'ajouter ce que j'ai dit maintes fois sur la différence des deux choses. Je répète seulement que rien ne nous semble bon de ce qui peut servir au mal. Or, tu vois combien de gens font mauvais usage des richesses, de la noblesse, de la puissance. Mais revenons au point que tu désires voir éclaircir. Comment nous est venue la notion première du bon et de l'honnête? La nature n'a pu nous l'enseigner. Elle nous a donné les germes de la science, non la science elle-même. Quelques-uns disent que cette notion nous est venue par aventure. Mais est-il croyable que l'image de la vertu n'est que fortuitement apparue à je ne sais quel homme? Selon nous, l'observation a recueilli, comparé entre eux certains actes fréquents de la vie. Et l'intelligence humaine y a reconnu le bon et l'honnête par analogie. Comme ce mot a reçu des grammairiens latins droit de citer, je ne crois pas devoir le proscrire et le renvoyer au lieu de sa naissance. Je l'emploie donc, non pas seulement comme toléré, mais comme sanctionné par l'usage. Or, qu'est-ce que cette analogie? Le voici. On connaissait la santé du corps. On s'avisa que l'âme avait aussi la sienne. On connaissait la force physique. On en déduisit qu'il y avait une force morale. Des traits de bonté, d'humanité, de courage nous avaient frappés d'étonnement. Nous commençâmes à les admirer comme autant de perfections. Il s'y mêlait beaucoup d'alliages, mais le prestige d'une action remarquable le couvrait de son éclat. On a dissimulé ses tâches, car naturellement, on est porté à outrer le plus juste éloge, et toujours, le portrait de la gloire a été au-delà du vrai. Or donc, de ces faits divers fut tiré le type du bien par excellence. Fabricius repousse alors de Pyrrhus, et vit moins de grandeur à posséder un royaume qu'à mépriser les dons d'un roi. Le même Fabricius, à qui le médecin du Pyrrhus promettait d'empoisonner son prince, avertit celui-ci d'être sur ses gardes. Ce fut l'effet d'une même vertu de ne pas être vaincu par l'or et de ne pas vaincre par le poison. Nous avons admiré ce grand homme, inflexible aux offres d'un roi, tout comme à celles d'un régicide, obstiné à suivre la vertu de son modèle, soutenant le plus difficile des rôles, celui d'un chef de guerre irréprochable, croyant qu'il est des choses non permises, même contre un ennemi. Enfin, au sein d'une extrême pauvreté pour lui si glorieuse, n'ayant pas moins horreur des richesses que de l'empoisonnement. Pyrrhus, a-t-il dit, tu vivras grâce à moi. Réjouis-toi de ce qui a toujours fait ta peine. Fabricius est incorruptible. Horatius Cloclès, à lui seul, intercepta les trois passages d'un pont. Il voulut que la retraite lui fût coupée, pourvu qu'on fermât le chemin à l'ennemi, dont il soutint l'effort, jusqu'au moment où retentit avec fracas la chute des solives brisées. Alors, tournant la tête et voyant le péril de sa patrie écarté au prix du sien, « Me suive qui voudra maintenant » s'écrie-t-il. Et il se précipite dans le fleuve, non moins soucieux, au milieu du courant qui l'entraîne, de sauver ses armes que sa vie, ses armes invaincues, dont l'honneur fut maintenu sans tache. Et il rentra dans Rome, aussi tranquillement que s'il avait passé par le pont même. Ces actions et d'autres semblables nous ont appris ce que c'est que la vertu. En revanche, ce qui peut sembler surprenant, le vice en obtint parfois les honneurs, et l'honnête parut briller où il était le moins. Car il est, tu le sais, des vices qui avoisinent les vertus, des penchants dégradés et vils sous des dehors de moralité. Ainsi, le prodigue a des airs de générosité, bien que la distance soit grande de qui s'est donné à qui ne s'est pas conservé. Car, on ne peut trop le redire, Lucilius, beaucoup jettent leurs dons et ne les placent pas. Or, appellerais-je libéral un bourreau d'argent? La négligence ressemble à la facilité, la témérité au courage. Ces conformités apparentes nous obligèrent à prendre garde et à distinguer des choses très rapprochées à l'extérieur, au fond, très dissemblables. En observant ceux qu'avait signalé quelque action d'éclat, on sut démêler quand tel homme avait agi dans l'élan généreux d'un grand cœur. On vit cet homme, brave à la guerre tel jour, timide au forum, héros contre la pauvreté, sans force contre la calomnie. Les éloges furent pour l'action, le discrédit pour la personne. On en vit un autre, bon avec ses amis, modéré envers ses ennemis, administrant avec des mains pures et religieuses les affaires de l'État et des citoyens, également doué de la patience qui tolère et de la prudence qui n'agit qu'à propos, donnant à pleine main quand la libéralité de saison, quand le travail commande, s'y dévouant avec persévérance et subvenant par l'activité de l'âme à l'épuisement des organes. Outre cela, toujours et en tout le même, vertueux, non plus par système, mais par habitude. Et arrivé au point, non pas seulement de pouvoir bien faire, mais de ne pouvoir faire autrement que bien. On jugea que là était la parfaite vertu, laquelle se ramifia en plusieurs parties, car on avait des passions à dompter, des frayeurs à vaincre. Il fallait prévoir les choses à faire, rendre à chacun selon son droit. On trouva pour tout cela la tempérance, la force, la prudence, la justice, et on leur assigna leur rôle. Qu'est-ce donc qui nous a fait connaître la vertu? Nous l'avons reconnue à l'ordre qu'elle établit, à sa beauté, à sa constance, à l'harmonie de toutes ses actions, à cette grandeur qui se rend supérieure à tout. Alors naquit l'idée de cette vie heureuse qui coule doucement, sans obstacle, qui s'appartient toute à elle-même. Mais comment cette dernière image s'offrit-elle à nous? Je vais le dire. Jamais ce mortel parfait, cet adepte de la vertu, ne maudit la fortune. Jamais il n'accueillit les événements avec chagrin. Se regardant comme citoyen et soldat de l'humanité, à ses yeux, tout labeur fut un commandement à subir. Quelque disgrâce qui survint, il n'y vit point un mal à repousser, un accident qui le frappait. Il l'accepta comme une charge à lui dévolue. Quelle qu'elle soit, se dit-il, elle est mienne. Elle est dure, elle est cruelle. Qu'elle soit pour mon courage un aiguillon de plus. Force était donc de reconnaître, grand, cet homme qui n'avait jamais gémi sous le malheur, jamais ne s'était plaint de sa destinée, qui, éprouvé en mille rencontres, avait brillé comme une vive lumière parmi les ténèbres, attirant vers lui toutes les âmes touchées de ce calme, de cette douceur qui le mettait au niveau de l'homme en même temps que du Dieu. Alors, cette âme accomplie, arrivée à son plus haut point, n'a plus, au-dessus d'elle, que l'intelligence divine, dont une parcelle est descendue jusque dans sa mortelle enveloppe. Or, jamais le divin ne domine mieux en lui que lorsque la pensée qu'il est mortel lui révèle qu'il a reçu la vie pour l'employer dignement. Que ce corps n'est point un domicile fixe, mais une hôtellerie, et une hôtellerie d'un jour, qu'il faut abandonner dès qu'on se sent à charge à son hôte. Oui, Lucilius, notre âme n'a pas de titre plus frappant de sa haute origine que son dédain pour l'indigne et étroite prison où elle s'agite, que son courage à la quitter. Il n'ignore pas où il doit retourner, celui qui se rappelle d'où il est venu. Ne voyons-nous pas combien d'incommodités nous travaillent, combien ce corps est peu fait pour nous. Nous nous plaignons tour à tour du ventre, de la tête, de la poitrine, de la gorge. Tantôt nos nerfs, tantôt nos jambes nous tiennent au supplice. Les déjections nous épuisent ou la pituite nous suffoque. Puis c'est le sang qui surabonde, qui plus tard vient à nous manquer. D'ici, de là, nous sommes harcelés et poussés dehors, inconvénients ordinaires à l'habitant d'une demeure qui n'est point la sienne. Et, au sein même du ruineux domicile qui nous est échu, nous n'en formons pas moins d'éternels projets. Nous n'envahissons pas moins en espoir le plus long avenir qu'une vie humaine puisse atteindre, jamais rassasié d'or, jamais rassasié de pouvoir. L'impudence et la déraison peuvent-elles aller plus loin? rien ne suffit à des êtres faits pour mourir, disons mieux, à des mourants. Car point de jour qui ne nous rapproche du dernier, du bord fatal d'où il nous faut tomber, et chaque heure nous y pousse. Vois quel aveuglement moral est le nôtre. Cet avenir dont je parle s'accomplit en ce moment même, il est en grande partie arrivé. Car le temps que nous avons vécu est rentré dans le néant où il était avant que nous ne vécussions. Et quelle erreur de ne craindre que le jour suprême, quand chaque jour nous avance d'autant vers la destruction. Ce n'est point le pas où l'on succombe qui produit la lassitude. Il ne fait que la révéler. Le jour suprême aboutit à la mort, mais chaque jour s'y acheminait. Elle nous mine peu à peu. Elle ne nous fauche pas. Aussi, toute grande âme, ayant conscience de sa céleste origine, s'efforce-t-elle, au poste où elle est mise, de se conduire avec honneur et talent. Du reste, ne jugeant comme à elle aucun des objets qui l'entourent, elle en use à titre de prêt. Elle est étrangère et passe vite. Une pareille constance chez un homme n'est-elle pas comme l'apparition d'une nature extraordinaire? Surtout, vous ai-je dit, si cette grandeur est démontrée vraie en ce qu'elle est toujours égale. Le vrai demeure invariable, le faux ne dure pas. Certains hommes sont, tour à tour, Vatinius et Caton. Tout à l'heure, ils ne trouvaient pas Curius assez austère, Fabricius assez pauvre, Tubéron assez frugal, assez simple dans ses besoins. Maintenant, ils luttent d'opulence avec Licinius, de gourmandise avec Apicius, de mollesse avec Mécène. La grande marque d'un cœur corrompu est de flotter, de se laisser balloter sans fin des vertus qu'on simule aux vices qu'on affectionne. On lui voyait tantôt 200 esclaves, tantôt 10. Il n'avait que tétrarques et rois et grandeur à la bouche. Et puis, baissant la voix, une table à 3 pieds, une simple salière pour me parer du froid, une toge grossière, c'est assez. À cet homme exempt de passion, Chiche, content de peu, donnait 2 millions. En 5 jours, bourse vide. Tous ceux dont je parle sont représentés par ce personnage d'Horace, jamais égal ni semblable à lui-même, tant il erre d'un excès à l'autre. Tels sont beaucoup de caractères, je dirais presque tous. Quel est l'homme qui chaque jour ne change de dessein ou de vœu. Hier, il voulait une épouse. Aujourd'hui, une maîtresse. Tantôt, il tranche du souverain. Tantôt, il ne tient pas à lui qu'il ne soit le plus obséquieux des esclaves. Souvent gonflé, jusqu'à se rendre haïssable, il va s'aplatir et se faire plus petit, plus humble que ceux qui gisent vraiment dans la boue. Tour à tour, il sème l'or et le ravit. Ainsi se trahit surtout l'absence de jugement. On paraît sous telle forme, puis sous telle autre, et chose à mon gré la plus pitoyable du monde, on n'est jamais soi. C'est une grande tâche, crois-moi, que de soutenir toujours le même personnage. Or, excepté le sage, nul ne le fait. Nous autres, nous ne savons encore que changer. Tu nous verras par moments économes, sérieux, par moments prodigues et frivoles. C'est à toute heure travestissement nouveau et l'opposé de ce que nous quittons. Gagne donc sur toi de te maintenir jusqu'à la fin tel que tu as résolu d'être. Fais qu'on puisse te louer ou du moins te reconnaître. Il y a tel homme qu'on a vu la veille et dont on peut dire « Qui est-il ?» tant est grand de la métamorphose. Lettre 121. Que tout animal a la conscience de sa constitution. Tu vas me faire un procès, je le vois, si je t'expose la subtile question qui, aujourd'hui, m'a retenu assez longtemps. Et, de rechef, tu t'écriras « Qu'y a-t-il là pour les mœurs ?» Récris-toi, soit. Moi, je t'opposerai en première ligne mes garants contre lesquels tu plaideras. Posidonius, Archidem. Ils accepteront le débat. Je parlerai après eux. Il n'est pas vrai que tout ce qui tient à la morale forme les bonnes mœurs. Telle chose concerne la nourriture de l'homme, telle autre ses exercices, telle autre son vêtement, son instruction ou son plaisir. Mais toutes se rapportent à l'homme, bien que toutes ne le rendent pas meilleur. Quant aux mœurs, il est diverses manières d'influer sur elles. Telle méthode les corrige et les règle. Telle autre scrute leur nature et leur origine. Quand je recherche pourquoi la nature a produit l'homme, pourquoi elle l'a mis au-dessus des autres animaux, crois-tu que je m'écarte bien loin de la morale? Tu te tromperais. Comment sauras-tu quelles mœurs l'homme doit avoir si tu ne découvres quelle est la grande fin de l'homme, si tu n'approfondis sa nature? Tu ne comprendras bien ce que tu as à faire ou à éviter que quand tu auras compris ce que tu dois à ta nature. Oui, diras-tu, je veux apprendre à modérer mes désirs et mes craintes. Débarrasse-moi de la superstition. Enseigne-moi que ces choses légères et vaines que ce qu'on appelle fortune, et que l'unique syllabe qui change tout vient s'y joindre bien facilement. Je contenterai ton désir, j'exhorterai aux vertus, je flagellerai les vices. Bien qu'on me trouve trop vif et trop peu modéré sur ce point, je ne cesserai de poursuivre l'iniquité, de m'opposer au débordement effréné des passions, de réprimer les voluptés qui aboutissent à la douleur, de fermer la bouche aux vœux téméraires. Et n'ai-je pas raison quand nos plus grands maux sont nés de nos souhaits et que les choses dont on nous félicite deviennent l'objet même de nos plaintes? En attendant, souffre que j'examine cette question qui semble un peu s'éloigner de la morale. Tous les animaux ont-ils le sens de leurs facultés constitutives? Ce qui prouverait le mieux qu'ils l'ont, c'est la propos et la facilité de leurs mouvements, qui semblent révéler une étude réfléchie. On n'en voit point dont tous les membres ne soient pourvus de leur agilité propre. L'ouvrier manie avec aisance ses outils. Le pilote ne dirige pas moins habilement son gouvernail. Les couleurs que le peintre a placées devant lui, nombreuses et variées comme celles des objets qu'il veut reproduire, il les démêle d'un coup d'œil, et de la palette au tableau, son regard et sa main voyagent sans obstacle. L'animal n'est pas moins preste à se mouvoir dans tous les sens qui lui conviennent. On admire souvent ces habiles pantomimes dont le geste prompt sait tout rendre, exprime toutes les passions, accompagne la parole la plus rapide. Ce que l'acteur doit à l'art, l'animal le tient de la nature. Aucun n'a peine à mouvoir ses membres, aucun n'est embarrassé pour s'en servir. Mis au monde pour cela, ils l'exécutent sur l'heure. Ils reçoivent leur science avec la vie. Ils naissent tout élevés. Les animaux, va-t-on dire, ne meuvent si à propos les diverses parties de leur corps que parce que, autrement, ils éprouveraient de la douleur. Donc, selon vous, ils y sont contraints. C'est par crainte, non volontairement, que leur allure est ce qu'elle doit être. Rien de plus faux. Les mouvements lents sont ceux que nécessite la contrainte. L'agilité est le propre de la spontanéité. Loin que ce soit la crainte de souffrir qui les fasse se mouvoir, ils se portent à leur mouvement naturel en dépit même de la souffrance. Ainsi, l'enfant qui tâche de rester debout, qui s'étudie à se tenir sur ses jambes, ne peut d'abord essayer ses forces qu'il ne tombe, pour se relever chaque fois en pleurant, tant qu'il n'a pas fini le douloureux apprentissage que demande la nature. Renverse certains animaux dont le dos est d'une substance dure. Ils se tournent, ils dressent leurs pattes qu'ils portent de côté et d'autre, jusqu'à ce qu'on les remette en leur premier état. Une tortue renversée ne sent point de douleur, mais elle est inquiète. Elle regrette sa position naturelle et ne cesse de faire effort de s'agiter que quand elle se retrouve sur ses pattes. Donc, tout ce qui respire à la conscience de sa constitution, d'où lui vient ce prompt et facile usage de ses membres. Et la plus forte preuve que cette notion date de la naissance même, c'est que nul être vivant n'ignore l'emploi de ses facultés. On répondra encore, la constitution, comme vous dites, vous autres stoïciens, est une certaine disposition dominante de l'âme à l'égard du corps. Cette définition embarrassée et subtile, que vous-même avez peine à formuler, comment un enfant la conçoit-il? Il faut que tous les animaux naissent dialecticiens pour comprendre une chose que trouvent obscure la plupart des esprits les plus cultivés. L'objection serait fondée si je prétendais que notre définition est comprise par les animaux et non leur constitution même. La nature nous dit ce que nous sommes bien mieux que ne fait la parole. Ainsi, l'enfant ignore ce que c'est que constitution, mais il connaît très bien la sienne. Il ne sait pas ce que c'est qu'un être animé, mais il sent qu'il est animé. En outre, il a de sa constitution même une idée grossière, sommaire et confuse. Comme nous savons que nous possédons une âme sans en connaître la nature, le siège, la forme ni l'origine. Tout comme la conscience de son âme arrive à l'homme, bien qu'il ignore ce qu'est cette âme et où elle réside, de même, aux animaux se manifeste la conscience de leur constitution. Il faut bien qu'ils aient le sentiment de ce par quoi ils sentent tout le reste, le sentiment de ce qui les dirige et leur fait loi. Il n'est personne qui ne conçoive qu'il existe en lui quelque chose dont il reçoit ses impressions sans savoir ce que c'est. Ce mobile est en lui, il le sait. Quel est-il? D'où vient-il? Il l'ignore. Ainsi, l'enfant comme l'animal n'a de la partie souveraine de son être qu'une conscience peu claire, indéterminée. Vous dites, reprend l'adversaire, que toute créature s'harmonie d'abord à sa constitution, que celle de l'homme, étant d'être raisonnable, il s'harmonie à la sienne, non comme animal seulement, mais comme raisonnable, car l'homme se doit aimer par l'âme qui le rend homme. Comment donc l'enfant peut-il s'harmonier à une constitution raisonnable, lui qui n'est pas raisonnable encore? Tout âge a sa constitution propre. Autre est celle de la première enfance, autre celle du second âge, autre celle du vieillard. Et tous savent y concorder. La première enfance n'a point de dents et s'en passe volontiers. Les dents lui viennent, elle apprend à s'en servir. Le brin d'herbe qui deviendra paille et froment, et qui, tendre encore, lève à peine hors du sillon, n'est pas constitué comme au jour où, déjà plus ferme, il se tient sur sa tige, assez forte dans sa faiblesse, pour supporter le jeune épi. Il change une troisième fois quand il jaunit et que son épi durcit, n'attend plus que le fléau. Mais, quelle que soit sa façon d'être, il y concourt, il s'y accommode. Ma première, ma seconde enfance, mon adolescence, ma vieillesse diffèrent l'une de l'autre. Et cependant, je suis le même qui ai passé par ces divers âges. Et la façon d'être a beau varier, on s'y harmonie toujours également. Car ce n'est ni mon enfance, ni ma jeunesse, ni ma vieillesse, mais bien moi que la nature me recommande. Ainsi, l'enfant s'affectionne à sa constitution d'enfant, et non à celle qu'il aura jeune homme. Et s'il doit plus tard changer pour grandir, il ne s'ensuit point que l'état dans lequel il naît ne soit pas conforme à sa nature. L'animal s'attache d'abord à lui-même, car il faut bien conserver l'être auquel le reste se rapportera. Je cherche le plaisir. Pour qui ? Pour moi. C'est donc de moi que je prends soin. De même, je fuis la douleur, toujours à cause de moi. Si je travaille en tout pour mon bien-être, c'est que je mets mon bien-être avant tout. Voilà, chez toutes les espèces, l'instinct non acquis, mais inné. La nature introduit ses enfants dans la vie, elle ne les y jette pas. Et comme le gardien le plus sûr, c'est le plus proche, elle confie chacun à soi-même. C'est pourquoi, comme je l'ai dit dans mes précédentes lettres, l'animal qui ne fait que de naître, de quelque manière qu'il s'échappe du sein maternel, connaît tout de suite ce qui lui est pernicieux ou mortel et il l'évite. Et les races que poursuivent les oiseaux de proie redoutent jusqu'à l'ombre de ceux-ci, lors même qu'ils volent bien au-dessus de leur tête. Aucun animal n'entre dans la vie sans la crainte de la mort. Mais, dit-on, d'où l'animal naissant tient-il l'intelligence de ce qui le conserve ou le détruit? D'abord, la question est de savoir s'il l'a et non comment il peut l'avoir. Or, il l'a manifestement, vu que l'intelligence admise, il ne ferait pas mieux. D'où vient que la poule, tranquille en présence du paon ou de l'oie, fuit l'épervier, bien plus petit qu'elle, encore qu'elle n'en ait jamais vu. D'où vient que les poussins redoutent le chat et jamais le chien. Évidemment, ils ont de ce qui peut leur nuire une science innée, indépendante de l'expérience, puisque, avant d'avoir pu l'éprouver, ils se gardent du mal. Et ne croient pas que le hasard y fasse rien. Ils ne craignent que ce qu'ils doivent craindre, et jamais ne perdent cet instinct de vigilance et de précaution. C'est toujours de la même manière qu'ils fuient les mêmes périls. Ajoute qu'ils ne deviennent pas plus timides avec l'âge, ce qui montre qu'ils ne font rien pour l'avoir appris, mais par l'amour naturel de leur conservation. Les leçons de l'expérience sont lentes et varient selon les individus. Celles de la nature sont égales pour tous et immédiates. Si pourtant tu l'exiges, je te dirai comment tout animal cherche à connaître ce qui lui est nuisible. Il sent qu'il est fait de chair, et sentant par suite ce qui peut couper, brûler ou écraser cette chair, quelles sont les races armées contre lui, tout cela lui apparaît comme antipathique et hostile, car ce sont choses indivisibles que le désir de la conservation, la recherche du bien-être et l'horreur de ce qui blesse. L'amour de ce qui doit nous servir et l'antipathie des contraires sont dans la nature même. Aucune étude ne nous suggère cela, et c'est sans réflexion que s'exécutent les prescriptions de la nature. Ne vois-tu pas quel art déploient les abeilles dans l'architecture de leur domicile? Quel accord dans l'accomplissement de leurs tâches respectives? Ne vois-tu pas comme ces tissus de l'araignée sont inimitables à toute industrie humaine? Quel travail pour combiner tous les fils dont partie jetée en ligne droite sert de support et partie se roule en cercle à mailles serrées au centre qui, de là, vont s'élargissant, de façon que l'insecte, contre lequel sourdit la trame homicide, demeure empêtré comme dans un filet. Cette science, la nature la donne, elle ne s'apprend pas. De là vient qu'un animal n'est pas plus habile qu'un autre de son espèce. Tu verras les toiles des araignées se ressembler toutes, et les cellules de toutes les ruches avoir la même capacité. Les traditions de l'art sont faillibles et inégalement répartis. Il n'y a d'uniforme que les enseignements de la nature. Elle apprend surtout aux animaux à se défendre, à bien connaître leurs ressources. Aussi, cette instruction commence-t-elle pour eux aussitôt que la vie. Et ce n'est pas merveille s'ils naissent pourvus d'une faculté sans laquelle ils naîtraient en vain. C'est le premier moyen que la nature leur donne pour s'harmonier constamment avec eux-mêmes et pour s'aimer. Ils n'auraient pu se conserver s'ils ne l'avaient voulu. Cela seul n'eût de rien servi. Mais sans cela, rien ne servait. Au reste, tu ne verras aucun animal faire bon marché de son être, ou même le négliger en rien. Le plus stupide et le plus brute, insensible pour tout le reste, a pour se conserver 1000 expédients. Tu verras les créatures les plus inutiles aux autres ne se manquer jamais à elles-mêmes. Lettre 122. Contre ceux qui font de la nuit le jour, le poète Montanus. Les jours perdent sensiblement et rétrogradent devant les nuits, de manière toutefois à laisser un assez honnête espace de temps à qui se lèverait, comme on dit, avec l'aurore, pressé par de plus nobles devoirs que l'homme qui attend ses premières lueurs pour aller faire sa cour. Honte à celui qui sommeille lâchement quand le soleil est déjà haut et dont la veille commence à midi. Et encore, pour beaucoup, il n'est pas jour à cette heure-là. Certaines gens font du jour la nuit et réciproquement. Appesantis par l'orgie de la veille, leurs yeux ne commencent à s'ouvrir que quand l'ombre descend sur la terre. Tels que ces peuples placés, dit-on, par la nature, sur un point du globe diamétralement opposé au nôtre et dont parle Virgile. Quand les coursiers du jour nous soufflent la lumière, là-bas, Vespère s'allume et rouvre sa carrière. Les hommes que je cite contrastent avec tous, non géographiquement, mais par le genre de vie. Antipodes de Rome dans Rome même, ils n'ont, suivant le mot de Caton, jamais vu du soleil ni le lever ni le coucher. Penses-tu qu'ils sachent comment on doit vivre, ceux qui ignorent quand il faut vivre? Et ils craignent la mort, eux qui s'y plongent vivants, hommes d'aussi malencontre présage que les oiseaux de ténèbres. Qu'ils passent dans le vin et les parfums leur nocturne existence, qu'ils consument leur veille contre nature en festins coupés de nombreux services. Ils sont là, non à des banquets, mais à leur repas d'enterrement. Et encore, est-ce de jour qu'on rend aux morts un pareil hommage? Les journées, grand Dieu, sont-elles jamais trop longues pour l'homme occupé? Sachons agrandir notre vie. L'office, la manifestation de la vie, c'est l'action. Retronchons à nos nuits pour ajouter à nos jours. L'oiseau qu'on élève pour nos tables, qu'on veut engraisser avec moins de peine, est tenu dans l'ombre et l'immobilité. Privé alors de tout exercice, ramassé sur lui-même, son corps inerte est envahi de bouffissures, et à l'abri du jour, sa paresseuse obésité croît de plus en plus. Ainsi, ces êtres qui se sont voués à la nuit ont l'aspect repoussant, le teint plus équivoque que n'est la pâleur d'un malade. Minés de langueur, exténués et blêmes, corps vivant à chair cadavérique. Cependant, le dirais-je, c'est là le moindre de leurs maux. Combien sont plus épaisses les ténèbres de leur âme. Abruties, éclipsées, elles portent envie à l'homme qui ne voit plus. Eût-on jamais des yeux pour ne s'en servir que la nuit? Tu veux savoir d'où naît cette dépravation morale, cette horreur du jour, cette vie transportée tout entière dans les ténèbres? C'est que tout vice fait violence à la nature et se sépare de l'ordre légitime. C'est le génie de la mollesse de se complaire à tout bouleverser. Il ne dévie pas seulement de la droite raison, il la fuit le plus loin qu'il peut. Il en veut prendre même le contre-pied. Dis-moi, ne violent-ils pas les lois de la nature ceux qui boivent à jeun, qui, dans un estomac vide, versent le vin à grands flots, et ne mangent que quand ils sont ivres? Rien n'est pourtant plus commun que de voir une jeunesse folle de gymnastique boire presque sur le seuil du bain, et boire outre mesure, au milieu d'hommes nus comme elle, et faire à chaque instant essuyer leur sueur provoquée par une liqueur brûlante et des rasades multipliées. Ne boire qu'à la fin des repas est trop vulgaire. Cela va bien à la rusticité de ces pères de famille qui ne se connaissent pas en plaisir. Le vin qu'on savoure est celui qui ne surnage pas sur les aliments, qui pénètre immédiatement jusqu'aux nerfs. Une ivresse délicieuse est celle qui envahit des organes libres. Ne viole-t-il pas les lois de la nature celui qui échange la prétexte contre l'habit de femme? Ne les viole-t-il pas ceux qui mutilent l'enfance pour que sa fraîcheur brille encore dans un âge qui ne l'admet plus? Ô cruauté, ô misère sans égale, il ne sera jamais homme pour pouvoir plus longtemps se prostituer à un homme. Et quand son sexe aurait dû le sauver de l'outrage, l'âge même ne l'y soustraira pas. Ne violent-ils pas ces mêmes lois ceux qui demandent la rose aux hivers, qui, au moyen d'eau chaude et de températures factices bien graduées, arrachent au frimas le lys, cette fleur du printemps? Et ceux encore qui plantent des vergers au sommet des tours, qui voient sur les toits, sur le faîte de leur palais, se balancer des bosquets dont les racines plongent, où leurs cimes les plus hardies devraient à peine monter, ne violent-ils pas les lois de la nature? Comme cet autre qui jette au sein des mers les fondements de ses bains et ne croit pas nager assez voluptueusement si ces lacs d'eau thermale ne sont battus du flot marin et de la tempête. Dès qu'on a pris le parti de tout vouloir, contrairement à l'ordre de la nature, on finit par un complet divorce avec elle. Le jour se lève, c'est l'heure du sommeil. Tout dort, prenons nos exercices, ma litière, mon dîner maintenant. L'aurore n'est pas loin, il est temps de souper. N'allons pas faire comme le peuple, fi de la routine et des méthodes triviales. Laissons le jour au vulgaire. Créons un matin pour nous seuls. En vérité, de tels hommes sont pour moi comme s'ils n'étaient plus. Qu'elles diffèrent peu des obsèques et des obsèques prématurées, ces existences qu'on mène à la lueur des torches et des bougies. Ainsi vivaient, nous nous en souvenons, une foule d'hommes du même temps, entre autres Attilius Buta, ancien préteur. Après avoir mangé un patrimoine énorme, il exposait sa détresse à Tibère, qui répondit « Tu t'es réveillé trop tard. » Montanus Julius, versificateur passable, connu par l'amitié sitôt refroidie du même Tibère, récitait de sa poésie où il intercalait à tout propos le lever et le coucher du soleil. Quelqu'un, s'indignant qu'il eût tenu toute une journée son auditoire, dit que c'était un homme qu'il ne fallait plus aller entendre. Sur quoi Nata Pinarius répliqua « Puis-je faire plus pour lui? Je suis prêt à l'entendre d'un lever à un coucher de soleil. » Un jour, il déclamait ses vers. Le ciel se dort au loin d'une clarté nouvelle. L'ardent Phébus s'avance et la noire hirondelle, pour son nid babillard pétrissant son butin, donnant leur part à tous, commence le festin. Et Buta commence à dormir, s'écria Varus, chevalier romain de la suite de Vinicius et amateur des fins soupers où son humeur caustique lui méritait une place. Puis, à la tirade qui venait tout après, Les bergers dans l'étable ont rentré leurs troupeaux, sur la terre assoupie arrêtant les travaux, la nuit sombre et muette a commencé. Varus interrompit encore. « Que dit-il? Déjà la nuit ?» Allons donner le bonjour à Buta. Rien n'était plus connu que Buta, que sa vie qui tournait en sens inverse des autres vies, et que suivaient, je l'ai dit, beaucoup de ses contemporains. Si tel est le goût de certaines gens, ce n'est pas que la nuit ait par elle-même plus de charme pour eux. C'est que rien ne leur plaît de ce qui s'offre à tous. C'est que le grand jour pèse aux mauvaises consciences. Et que ceux qui convoitent ou méprisent les choses, selon qu'elles s'achètent plus ou moins chères, dédaignent la lumière qui ne coûte rien. Et puis, les gens de plaisir veulent qu'on s'entretienne tant qu'elle dure de la vie qu'ils mènent. Si l'on n'en dit rien, ils croient leur peine perdue. Et ils sont mal à l'aise si quelque fait d'eux échappe à la publicité. Beaucoup mangent comme eux leurs biens, beaucoup ont des maîtresses. Pour se faire un nom parmi leurs pareils, il faut non seulement du luxe, mais un luxe original. Dans une ville aussi affairée, les sottises ordinaires ne font point parler d'elles. J'ai ouï rapporter par Pedo Albinovanus, conteur très agréable, qu'il avait habité à l'étage supérieur la maison de Papinius, l'un de ces hommes qui fuyaient le jour. Vers la troisième heure de la nuit, disait-il, j'entends des coups de fouet qui résonnent. Je demande ce que fait mon homme. C'est, me répond-on, qu'il règle les comptes de ces gens. 3 heures après, s'élèvent des vociférations précipitées. Qu'est-ce cela? On me dit, Papinius exerce sa voix. Vers la 10e heure, j'entends un bruit de roues et j'apprends qu'il va sortir en voiture. À la pointe du jour, on court de tous côtés. On appelle les esclaves, sommeliers, cuisiniers sont en grand mouvement. Qu'est-ce encore? Il demande son gruau et son vin miellé, il sort du bain. Il prolongeait donc son souper bien avant dans le jour? Pas du tout. Il était très sobre et ne dépensait que ses heures de nuit. Aussi, Pedo répondait-il à ceux qui, bien souvent, traitaient cet homme d'avare et de vilain. Et son régime, donc, tout à l'huile de lampe, parlez-en. Ne t'étonne point de voir le vice affecter tant de formes particulières. C'est un protée à 1000 faces, on en peut saisir les variations. Il n'est qu'une manière d'aller droit. Il en est temps de s'égarer. Et le caprice nous pousse si vite à de nouveaux écarts. De même, dans vos façons d'être, suivez la nature. Elles ont un air d'aisance et de facilité. De simples nuances vous distinguent d'autrui. Les natures faussées sont, sur 1000 points, en désaccord avec tous et avec leurs pareils. Mais la grande cause, selon moi, de cette maladie, est le dédain de vivre comme tout le monde. Se fait-on distinguer des autres par la mise, la délicatesse de la table, le luxe des équipages? On veut encore s'en séparer, on ne se contente pas d'excès vulgaires, quand on cherche pour prix des siens le scandale même, but de tous ces gens qui, pour ainsi dire, vivent à rebours. Tenons donc, ô Lucilius, tenons le chemin que la nature nous a tracé, et n'en dévions jamais. Là, tout nous est ouvert et facile. S'obstiner contre elle, c'est proprement la vie de ceux qui rament contre le courant. Lettre 123. Mœurs frugales de Sénèque. Fuir les apologistes de la volupté. Harassé d'avoir fait une route plus incommode que longue, je suis arrivé à ma maison d'Albe fort avant dans la nuit. Je n'y trouve rien de près que mon appétit. Que faire? Je m'étends fort là sur ma couche. Cuisiniers et boulangers sont en retard. Prenons bien la chose. Et je me dis, à part moi, non, rien n'est pénible dès que tu l'acceptes sans peine. Rien ne te doit dépiter si ton dépit même ne l'exagère. Mon boulanger manque de pain, mais mon régisseur, mon portier, mon fermier en ont. Mauvais pain, dis-tu. Attends, il deviendra bon. La faim te le fera trouver tendre et de premier choix. Seulement, n'y touche point qu'elle ne te commande. J'attendrai donc, et ne mangerai que quand j'aurai de bon pain, ou que le mauvais ne me rebutera plus. Il est nécessaire d'apprendre à s'accommoder de peu. Mille difficultés de lieu et de temps nous traversent, et, fût-on riche et des mieux pourvus, s'interposent entre nous et l'objet souhaité. Nul ne peut avoir tout ce qu'il désire, mais on peut ne pas désirer ce qu'on n'a point, et user gaiement de ce que le sort nous offre. C'est un grand point d'indépendance qu'un estomac bien discipliné et qui sait souffrir les mécomptes. Tu ne saurais imaginer quel bien-être j'éprouve à sentir ma lassitude se reposer sur elle-même. Je ne demande ni friction, ni bain, pas d'autre remède que le temps. Ce qui est venu par la fatigue s'en va par le repos. Ce souper tel quel, je le savourerais mieux qu'un banquet de pontife. Voilà donc enfin mon courage mis à une épreuve inattendue, par conséquent plus franche et plus réelle. Car l'homme qui s'est préparé, qui s'est arrangé pour souffrir, ne découvre pas si bien quelle est sa vraie force. Les plus sûrs indices de la force naissent de l'imprévu, quand les contretemps nous trouvent non seulement courageux, mais calmes. Quand, loin de prendre feu, d'invectiver, nous suppléons à ce que nous avions droit d'attendre en supprimant notre désir, et réfléchissons que si nos habitudes en souffrent, nous-mêmes n'y perdons rien. Que de choses dont on ne comprend toute l'inutilité que lorsqu'elles viennent à nous manquer. On en usait non par besoin, mais parce qu'on les avait. Que d'objets l'on se donne parce que d'autres en ont fait emplette, parce qu'on les voit chez presque tout le monde. L'une des causes de nos misères, c'est que nous vivons d'après autrui, et qu'au lieu d'avoir la raison pour règle, le torrent de l'usage nous emporte. Ce que peu d'hommes feraient, nous n'aurions garde de limiter. Mais les exemples abondent-ils? Comme si la chose en était plus belle pour être plus fréquente, on l'adopte, et l'erreur prend sur nous les droits de la sagesse dès qu'elle devient l'erreur publique. On ne voyage plus maintenant sans un escadron d'éclaireurs numides qu'appuie une légion de coureurs en avant-garde. Il est mesquin de n'avoir personne qui jette hors de la route ceux qui vont vous croiser et qui annonce par des flots de poussière que voici venir un homme d'importance. Tout le monde a des mulets pour porter ses cristaux, ses vases murins, ses coupes ciselées par de grands artistes. Il est pitoyable qu'on puisse croire tout votre bagage à l'épreuve des chaos. Chacun fait voiturer ses jeunes esclaves, la face enduite de pommade, de peur que le soleil, que le froid, n'offensent leur peau délicate. On doit rougir si, dans son cortège de mignons, on n'a pas un de ces frais visages auxquels il faut un préservatif. Évitons le commerce de tous ces hommes. Propagateurs d'immoralité, la contagion circule avec eux. La pire engeance était, semblait-il, les colporteurs de médisance. Il en est une autre, les colporteurs de vices. Leurs doctrines nuisent profondément, et si elles n'empoisonnent pas sur le coup, elles laissent leurs germes dans le cœur. Elles ne nous quittent plus, fussions nous-mêmes déjà loin d'eux. Et plus tard, le mal se réveille. Comme au sortir d'une symphonie, Notre oreille emporte avec elle cette harmonie et cette douceur des chants qui, enchaînant l'action de la pensée, ne lui permettent point d'application sérieuse. Ainsi, les paroles de l'adulation et l'apologie des désordres retentissent en nous longtemps après qu'on ne les entend plus. Et difficilement, l'on bannit de son âme le concept enchanteur. Il nous poursuit, il se prolonge, il revient par intervalles. Fermons donc l'oreille aux discours pervers, surtout aux premières insinuations, car dès qu'elles ont pris pied et se sont fait admettre, elles osent davantage. De là, on arrive à nous dire « la vertu, la philosophie, la justice, termes sonores, vides de sens, le seul bonheur, c'est de traiter joyeusement la vie, manger, boire et jouir sans gêne de son patrimoine. Voilà vivre, voilà se rappeler qu'on est mortel. » Les jours s'écoulent, la vie s'échappe pour ne plus revenir. Et l'on hésite? Que sert d'être sage? On est jeune, on ne sera pas toujours propre au plaisir. Pourquoi, à cet âge qui peut le goûter et qui le réclame, s'infliger l'abstinence? Vouloir mourir par avance, et tout ce que la mort nous enlèvera, se le retrancher dès maintenant? Tu n'as point de maîtresse, point de mignon pour rendre ta maîtresse jalouse. Tu sors chaque matin le gosier sec. Tes soupers sont d'un fils qui doit soumettre à son père son journal de dépenses. Ce n'est pas la jouir, c'est assister aux jouissances des autres. Quelle folie de te faire le gérant de ton héritier, de tout te refuser pour que ton ample succession d'un ami te fasse un ennemi, d'autant plus joyeux de ta mort qu'il en recueillera davantage. Ces gens moroses, au front sourcilleux, censeurs de nos plaisirs, ennemis de nous-mêmes, pédagogues du genre humain, compte-les pour moins qu'une obole, et préfèrent hardiment bonne vie à bonne renommée. Propos à fuir, non moins que ces voix à portée desquelles Ulysse ne voulut passer que lié à son mât. Ils ont le même pouvoir, ils chassent de nos cœurs patrie, famille, amitié, vertu. Leur doctrine, plus dégradante encore, envoie l'homme se briser aux écueils d'une vie de honte et de misère. Qu'il vaut bien mieux aller droit son chemin et s'élever à cette hauteur où plus rien n'a de charme pour nous que l'honnête. Et nous pourrons y atteindre si nous savons faire deux parts des choses, dont les unes nous invitent et les autres nous repoussent. Ceux qui invitent, ce sont les richesses, les plaisirs, la beauté, les honneurs, tout ce qui nous flatte et nourrit ici-bas. Ce qui repousse, c'est le travail, la mort, la douleur, l'ignominie, une vie de privation. Eh bien, il faut s'habituer à ne pas désirer les uns, à ne pas craindre les autres. Luttons contre ces deux tendances. Fuyons ce qui nous invite, faisons face à ce qui nous attaque. Ne vois-tu pas combien l'homme qui monte diffère d'attitude avec celui qui descend? Qui suit une pente porte le corps en arrière, qui gravit se penche en avant. Car si tu pèses en descendant sur la partie antérieure du corps, si pour monter tu le ramènes en arrière, te voilà complice de ta chute. Aller au plaisir, c'est descendre. Pour les choses rudes et difficiles, il faut gravir, il faut de l'élan. Ailleurs, le frein est nécessaire. Penses-tu qu'ici, je prétende que ceux-là seuls sont dangereux à écouter, qui vantent le plaisir et nous impriment la crainte de la douleur, déjà effrayante par elle-même? J'en vois d'autres, non moins nuisibles, qui, sous le masque du stoïcisme, nous exhorte au vice. Que prêche-t-il en effet? Que le sage, le philosophe seul sait faire l'amour, seul apte au grand art du bien boire et d'être bon convive. Le sage y est passé maître. Voyons, disent-ils, jusqu'à quel âge peuvent être aimés les jeunes garçons. Laissons aux Grecs cette pratique. Prêtons plutôt l'oreille à ceux qui disent « Nul ne devient bon par hasard. La vertu veut un apprentissage. La volupté est une chose abjecte et futile, digne de toute notre indifférence, qui nous est commune avec les brutes et que les dernières, les plus viles, pourchassent avec plus d'ardeur. La gloire est un songe, une fumée, un je ne sais quoi plus mobile que le vent. La pauvreté n'est un mal que pour qui se révolte contre elle. La mort n'est point un mal. Qu'est-elle donc, dis-tu? La seule loi d'égalité chez les hommes. La superstition est une erreur qui tient du délire. Elle craint de ce qu'elle devrait aimer. Son culte est une profanation. Or, quelle différence y a-t-il entre nier les dieux et les dégrader? Voilà ce que nous devons nous dire et nous redire sans cesse. La tâche de la philosophie n'est point de suggérer des excuses aux vices. Plus d'espoir du salut pour le malade que son médecin invite à l'intempérance. Lettre 124. Que le souverain bien se perçoit non par les sens, mais par l'entendement. Je puis des vieux auteurs te citer maint avis si leurs simples discours ont pour toi quelque prix. Or, tu n'y répugnes pas, et jamais vérité, si simple qu'elle soit, ne te rebute. Tu n'es pas d'un goût assez difficile pour ne courir qu'après le sublime. Je t'approuve aussi de tout rapporter au progrès moral et de ne te choquer jamais que de ces hautes subtilités qui ne mènent à rien. Tâchons qu'ici même, cela n'arrive point par mon fait. On demande si le bien se perçoit par les sens ou par l'entendement, et l'on ajoute que l'enfant et la brute ne le connaissent pas. Tous ceux qui mettent la volupté au-dessus de tout pensent que le bien nous vient par les sens. Nous, au contraire, nous l'attribuons à l'entendement et le plaçons dans l'âme. Si les sens étaient juges du bien, nous ne repousserions nul plaisir, car il n'en est point qui n'ait son attrait et son charme propre. Comme aussi, jamais, nous ne subirions volontairement la douleur, car toute douleur révolte les sens. De plus, on n'aurait droit de blâmer ni l'ami trop ardent du plaisir, ni celui que domine l'effroi de la douleur. Et cependant, nous condamnons les gourmands et les libertins, et nous méprisons ceux qui n'osent point agir en homme par peur de souffrir. En quoi pêchent-ils s'ils obéissent au sens, c'est-à-dire aux juges du bien et du mal, aux arbitres créés par vous de nos appétits comme de nos répugnances? Mais évidemment, c'est à la raison souveraine des sens qu'appartient le droit de régler la vie et ce qui est vertu, honneur, et de prononcer sur le bien et le mal. Chez nos adversaires, la partie la plus vile a droit de décision sur la plus noble. Ce qui est bien, les sens le détermineront. Les sens obtus et grossiers, moins prompts chez l'homme que chez les animaux. Et si quelqu'un s'avisait pour discerner de menus objets, de s'en rapporter au tact plutôt qu'à la vue? Non, aucun sens, fût-il pour ces menus objets, plus subtil et plus pénétrant que la vue, ne nous donnerait la distinction du bien et du mal. Vois dans quelle ignorance du vrai ils se débattent, et comme ils ravalent le sublime et le divin, ceux qui veulent que le souverain bien, que le mal, se juge par le toucher. Mais, nous dit-on, de même que toute science et tout art doivent avoir quelque chose de manifeste, les sens peuvent saisir et tirer de là leurs principes et leur développement. Ainsi, le bonheur a sa base et son point de départ dans les choses manifestes et qui tombent sous les sens. Car, vous aussi, vous dites que le bonheur doit provenir d'objets palpables. Nous disons que le bonheur est dans les biens conformes à la nature. Or, ce qui est conforme à la nature nous apparaît clairement sur le champ comme tout ce qui est saint et pur. Les choses conformes à la nature, ce que reçoit l'homme dès sa naissance, c'est, je ne dis point le bonheur, mais le principe du bonheur. Vous, vous gratifiez l'enfance du bonheur suprême, de la volupté d'Épicure. Le nouveau-né arrive tout d'abord au but que seul peut atteindre l'homme fait. C'est mettre la cime de l'arbre où doivent être les racines. Celui qui dirait que le fœtus enseveli dans le sein maternel et dont le sexe même est indécis, que cette molle et informe ébauche jouit déjà de quelque bonheur, serait taxé d'erreur évidente. Or, quelle faible différence entre l'enfant qui ne fait que de naître et cette chair qui pèse au flanc où elle se cache. L'un n'est pas plus mûr que l'autre pour l'intelligence du bien et du mal, et l'enfant qui vagit est aussi peu capable de bonheur que l'arbre ou tout animal privé de la parole. Et pourquoi le bonheur n'est-il pas fait pour l'arbre ni pour l'animal? Parce qu'ils n'ont point la raison. Par le même motif, il n'appartient pas à l'enfant, dépourvu de cette raison, à laquelle il faut qu'il arrive pour arriver au bonheur. Il y a l'animal irraisonnable. Il y a celui qui n'est pas raisonnable encore, et celui qui l'est imparfaitement. Le bonheur n'est chez aucun d'eux. La raison seule la porte avec soi. Entre les trois classes que je viens de citer, quelles sont donc les différences? Jamais le bonheur ne sera dans l'être irraisonnable. Celui qui n'est pas encore raisonnable ne peut jusque-là le posséder. Celui qui l'est imparfaitement marche vers le bonheur mais ne l'a pas atteint. Non, Lucilius, le bonheur n'est point l'apanage d'un individu, ni d'un âge quelconque. Du bonheur à l'enfance, il y a le même intervalle que du terme au début, que du couronnement au principe. À plus forte raison, n'est-il pas dans un molle embryon, doué à peine de quelque consistance? Et oui, certes, pas plus qu'il n'était dans la semence même. Quand tu dirais « Je connais telle vertu à cet arbre, à cette plante », elle n'est pas dans la pousse qu'on voit seulement poindre et percer la terre. Le blé a son utilité propre, que n'a point encore le brin nourri de lait, ni le tendre épi qui se dégage de son fourreau, mais bien ce froment qu'a doré et mûri le soleil dans la saison prescrite. Comme toute création n'a ses qualités développées qu'au jour où son accroissement est complet, ainsi l'homme ne possède le bien qui lui est propre que quand la raison est consommée en lui. Et ce bien, quel est-il? Une âme indépendante et droite qui met tout à ses pieds, rien au-dessus d'elle. Ce bien est si peu pour la première enfance que l'adolescence ne l'espère même pas et qu'il est la chimère de la jeunesse. Heureuse même la vieillesse que de longues et sérieuses études y ont pu conduire. Alors, on le possède avec connaissance de cause. Selon vous, dira-t-on, il existe un bien virtuel pour l'arbre, un bien pour la plante, l'enfant peut donc avoir aussi le sien. Le vrai bien ne se trouve ni dans l'arbre ni dans la brute, mais l'espèce de bien qui est en eux n'est qualifié tel que par un terme d'emprunt. Où donc est le bien pour eux? Dans ce qui est conforme à leur nature respective. Mais le vrai bien n'est en aucune façon donné à la brute. C'est le lot d'une nature meilleure et plus heureuse, où la raison n'a point de place. Le bien n'existe pas. Il y a quatre espèces de nature, celle de l'arbre, celle de la brute, celle de l'homme et celle de Dieu. L'homme et Dieu, étant raisonnables, ont la même nature. Ils ne diffèrent qu'en ce que l'un ne meurt pas et que l'autre est mortel. La nature de l'un constitue son bonheur, l'autre doit conquérir le sien. Les autres natures sont parfaites dans leur genre, non d'une vraie perfection, car la raison leur est étrangère. Il n'y a de vraiment parfait que ce qu'il est d'après les lois universelles de la nature. Or, cette nature est raisonnable. Mais des créatures inférieures peuvent avoir une perfection relative. L'être en qui ne peut se trouver le bonheur ne saurait avoir ce qui le produit. Le bonheur se compose d'un ensemble de biens. Cet ensemble n'est point chez la brute, donc la brute n'a pas le vrai bien. La brute perçoit les sensations présentes, se rappelle les sensations passées quand d'aventure ses organes en sont avertis. Un cheval mis en face d'une route se ressouvient qu'il l'a déjà prise. Dans l'écurie, il n'a nulle mémoire du chemin qu'il aura mille fois parcouru. L'idée de la troisième division du temps, l'idée de l'avenir, n'est pas faite pour lui. Comment donc peut-on voir une entière perfection chez des êtres qui n'ont du temps qu'une imparfaite perception? Car des trois parties qui le composent, le passé, le présent, l'avenir, c'est la plus courte que l'animal saisit dans son cours rapide, le présent. Il a rarement souvenir du passé, qui jamais ne lui revient qu'à l'occasion du présent. Ainsi, le bien, qui appartient à une nature parfaite, ne peut s'allier à une nature qui ne l'est point. Ou, si cette dernière en possède un quelconque, c'est à la manière des plantes. Je ne nie pas que l'animal n'ait, vers ce qui semble conforme à notre nature, de vifs et impétueux élans, mais irréguliers et désordonnés. Or, jamais le vrai bien n'est irrégulier ou désordonné. Mais, dira-t-on, pourquoi les animaux n'auraient-ils ni ordre ni règle dans leurs mouvements? Oui, voilà ce que j'affirmerais si l'ordre était dans leur nature. Mais en réalité, ils se meuvent selon leur nature désordonnée. Il n'y a proprement de déréglé que ce qui peut être parfois conforme à la règle. Pour qu'il y ait inquiétude, il faut qu'il puisse y avoir sécurité. Le vice n'est jamais qu'où pourrait être la vertu. C'est ainsi que les mouvements des animaux correspondent à leur nature. Mais pour ne pas trop t'arrêter, j'accorde qu'il peut y avoir chez les bêtes quelque bien, un mérite, une perfection, qui n'ont rien d'absolu. Tout cela n'échoit qu'à l'être raisonnable auquel il est donné d'en apprécier les causes, l'étendue et l'application. Donc, le bien ne se trouve que chez l'être doué de raison. Tu demandes à quoi peut aboutir cette discussion et quel profit ta pensée en recueillera. Celui d'un exercice qui l'aiguise, d'une honnête occupation qui, faute de mieux, la tienne en haleine. L'homme profite aussi de tout ce qui arrête son élan vers le mal. Je dis plus. Je ne puis mieux te servir qu'en te montrant ton vrai bien, qu'en te séparant de la bête, qu'en t'associant à Dieu. Pourquoi, en effet, Ô homme, si bien nourrir et cultiver les forces de ton corps. La nature en a octroyé de plus grandes à certains animaux domestiques ou sauvages. Pourquoi tant de soins de ta parure? Tu auras beau faire, nombre d'entre eux te surpasseront en beauté. Et ta chevelure, si artistement arrangée, quand tu l'aurais flottante à la mode des Parthes, ou tressée en nattes comme les Germains, ou tout éparse comme les Scythes, la crinière que secoue le cheval sera toujours plus épaisse que la tienne, celle du lion plus magnifiquement hérissée. Quand tu auras bien appris à courir, tu ne seras pas l'égal du plus chétif lièvre. Rends-toi, renonce à tes prétentions où tu as forcément le dessous, car tu aspires à ce qui n'est pas pour toi. Reviens au bien qui t'est propre. Où est-il? Dans une âme épurée et chaste, émule de la divinité, dédaignant la terre et ne plaçant hors d'elle-même rien de ce qui la fait ce qu'elle est. Animal raisonnable, quel est ton bien à toi? Une raison parfaite. Fais qu'elle arrive à son dernier terme et s'élève aussi haut qu'elle peut croître. Ne t'estime heureux que le jour où toutes tes joies naîtront de toi-même, où parmi ces objets que les mortels s'arrachent, qu'ils convoitent, qu'ils gardent chèrement, nul ne te semblera digne, je ne dis pas de tes préférences, mais du moindre désir. Voici une courte formule qui te doit donner ou la mesure de tes progrès ou la conscience de ta perfection. Tu jouiras du vrai bien quand tu comprendras que les plus malheureux des hommes, ce sont les heureux.